coqs chantent et jour paraît, tout se debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Aujourd'hui, nous allons vous parler d'agroforesterie à Noto et de fixation des dunes à Guétié-Séré, deux villages situés dans la zone des Niaï qui jouxte la façade maritime du Sénégal. L'agroforesterie repose sur des principes agronomiques connus depuis longtemps par les scientifiques. Les traditions agro-pastorales commandent d'éliminer tout ce qui entrave la croissance et le développement de l'essence végétale cultivée. Ainsi fait, il est de coutume de déboiser tout périmètre destiné à la culture. Il se trouve que les arbres ont un rôle spécifique dans la constitution et la préservation de la fertilité des sols. En effet, les racines des arbres descendent profondément dans la terre et font ainsi remonter des éléments minéraux essentiels qu'ils mettent à la disposition des cultures plus fragiles telles les céréales et les légumineuses. Autre élément, le système racinaire des arbres contribue à la stabilité des sols menacés d'érosion. Et dans le cas d'érosion éolienne, le couvert végétal sert de coupe-vent qui limite les dégâts. À Noto et à Guétié-Séré, nous sommes dans la zone que les techniciens en agriculture appellent la zone des Niaï. C'est un pôle de production maraîchère menacé par la déforestation et l'érosion côtière. Or, la zone des Niaï fournit 70 à 90% des besoins en légumes et en fruits des villes sénégalaises. En résumé, une zone agricole importante pour le pays, un terroir menacé, un monde agricole peu soutenu et une absence de planification à long terme intégrant environnement et production. Il faut donc s'attaquer à ces deux problèmes dans le même mouvement.
Il faut un entraînement spécial pour marcher dans le sable.
Nous arrivons sur le site de Gouye-Diama dans le village de Noto, situé à l'ouest du pays à 23 km de Thiès. Les activités dominantes sont l'agriculture, le maraîchage, l'élevage et le commerce, auxquels s'ajoutent les services et l'artisanat. Cette zone se distingue par un terroir favorable à la production de mangue. Seulement voilà, les producteurs ne sont pas organisés, les pratiques culturelles sont peu productives, à cela s'ajoute la difficulté de s'approvisionner en intrants et en jeunes plants. Tout cela entraîne la baisse de la productivité, la pauvreté et l'insécurité alimentaire dans les communautés villageoises. Ici, il a fallu plusieurs acteurs pour encadrer les producteurs. Le service des eaux et forêts, les 6 communes limitrophes, l'ONG internationale SOS Sahel et ses partenaires et l'association des unions maraîchères des Niaï qui ont travaillé avec 622 producteurs.
Bonjour, ça va?
À notre arrivée, nous sommes reçus par Madame la Présidente de l'Union Forestière.
Man mañu tuddu bu saxulé djogé village Ndiob Saw nek président Union Forestière bu Noto Guydiama.
Elle s'appelle Boussé Khoulé et la présidente de l'Union de Noto. Elle habite Ndiob Saw, le village de Ndiob Saw.
Nous sommes à Noto ici. Est-ce qu'elle peut nous présenter ce village?
Le village de Noto Guydiama, c'est le siège de la commune de Guydiama. Et puis c'est aussi le centre de gravité de 4 communes. Parce que l'Union, le Réunion compte 4 communes. Mais le centre c'est Noto Guydiama.
Donc l'Union c'est l'Union des planteurs des 4 communes.
Oui, c'est les 4 communes. Mais elle privilège les groupements qui sont proches de la bande. C'est plus facile parce que c'est ces groupements-là qu'on attribue les blocs.
Il y a combien de groupements qui sont dans l'Union?
39 groupements.
L'Union compte 39 groupements.
Et
combien de personnes?
2600 personnes.
Et 2600.
D'accord. Et la première fois que SOS Sahel est arrivé ici, comment ça s'est passé?
Ils ont reçu SOS Sahel avec beaucoup de satisfaction, avec beaucoup d'impatience parce qu'il était dans d'autres unions. La collaboration avec SOS Sahel a été vraiment une collaboration fructueuse parce que tous les membres ont bénéficié de l'accompagnement de SOS Sahel.
Ce qu'elle veut me dire, c'est que SOS Sahel a travaillé dans d'autres groupements voisins. Et ils étaient là, ils vous ont vu comment ça s'est passé ailleurs.
Wow,
Effectivement, c'est ça. Ça s'est passé comme ça parce que SOS Sahel travaille avec les Unions de Louga et qu'ils ont la même fédération, c'est-à-dire l'association des Unions des maraîchers des Niaï, et que c'est de là-bas qu'elle a entendu les activités de SOS Sahel au niveau de Louga. C'est pourquoi ils ont sollicité SOS Sahel de venir les accompagner.
Alors, avant que SOS Sahel arrive, quels étaient leurs problèmes ici?
Avant SOS Sahel, ils avaient des problèmes pour planter, pour faire pousser quelque chose dans la zone. Parce qu'il y avait une très forte divagation dans la zone. Ils plantaient, mais les plantes ne tenaient pas. Mais avec l'arrivée de SOS Sahel et l'accompagnement, ils ont pu quand même réussir leurs exploitations.
Et
qu'est-ce que SOS Sahel vous a appris?
SOSL, vraiment, l'appui est très, 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 très intéressant. Et elle nous a appris à nous autonomiser dans la mesure où, aujourd'hui, avec l'accompagnement, les retombées, on fait nuire nos familles, on entretient nos familles. Ensuite, dans les, sur le plan éducation également, ils accompagnent leurs enfants dans l'éducation.
Quand un homme gagne de l'argent, c'est pour lui, mais quand une femme gagne de l'argent, c'est pour toute la famille.
Effectivement, les hommes, quand ils gagnent, ils gardent pour eux. Par contre, les femmes, quand ils gagnent, c'est pour les enfants, c'est pour la famille, c'est pour la maison.
Pourquoi quand je parlais des hommes, ils me regardaient méchamment?
Parce qu'il
sait que tu es un homme. Tu fais partie de la bande.
De quelle bande? C'est quand même pas une gang. C'est leur mari.
Non, quand même,
ils savent très bien,
mais vous, vous êtes mature quoi. Mm-hmm. Vous cherchez encore des femmes, vous cherchez des femmes à longueur de truc.
Ah, les hommes, il faut que chercher des femmes. Oui. En plus des problèmes de production et de valorisation des fruits, il y a ce qu'on appelle le problème de la bande des filaos. La zone de Niaï est un espace agro-silvo-pastoral très important pour le Sénégal, comme on l'a vu précédemment. Et les femmes jouent un rôle significatif dans l'économie de cette région vitale. Pour protéger cette zone de l'érosion côtière, le gouvernement sénégalais a fait planter dans les années 1950 à 1970 une bande côtière du filao d'environ 182 km allant de Dakar à Saint-Louis. Aujourd'hui, il se pose un problème de renouvellement de cette bande de filao, et c'est le cas également à Noto.
Bande filao bi manam walu pépinière.
Le plus grand problème, c'était en fait la production de plants. Et SOSL, en arrivant, vraiment, il les a amené deux pépinières, aménagé deux pépinières, une dans la bande qui leur permet quand même de faire une production suffisante pour pouvoir reboiser correctement, et une autre dans le cadre de la production de plants, dans le cadre des fruitiers, parce que c'est une zone de manguier, c'est là-bas qu'ils produisent des espèces fruitières.
D'accord. Maintenant, on va parler de questions qui fâchent. Alors ici, on dit Khalissi, l'argent. Qui a donné l'argent pour faire tout ça?
SOSL, moi, je l'ai appelé.
Elle dit c'est SOSL.
Donc, SOSL a donné l'argent, l'encadrement technique, et elles ont donné le travail.
Effectivement, SOSL a pris sur le plan financier, mais tout ce qui est activité, c'est l'Igno qui gérait, qui faisait ça. C'est du remportage jusqu'au reboisement. C'est l'Igno.
Donc aujourd'hui, tout va bien.
Il dit vraiment, il faut voler avec les propres ailes. Mais aujourd'hui, tous les membres, vu la dimension, le nombre de membres, tous les membres n'ont pas pu bénéficier de l'appui de SOSL, ce qui a un peu bloqué le truc. Il souhaiterait vraiment que SOSL continue l'accompagnement pour qu'il puisse toucher tous les autres membres.
waaw légui dessam na manam ay machine
di bon non seulement il y avait la production de plants mais il y avait un fonds incitatif que l'ONG a pu accompagner les meilleurs planteurs et cette dame là faisait partie et elle a développé des activités de maraîchage avec sa machine
d'accord
et qui ma fekkan nañ ko mu nekk nit ko xamantene ko sonn la ci njabotam
bon elle dit bon c'est une femme très diminuée. Son mari aussi la même chose son mari n'arrivait même pas à avoir une exploitation mais après l'appui de SESL elle a pu acheter une autre machine elle a pu quand même vraiment et faire correctement son exploitation elle avait appuyé la dame parce qu'elle était la meilleure planteuse de l'île
muy femme bi
merci
Nous sommes dans la plantation du Cheikh Nguam, l'un des rares hommes du village qui a adhéré à l'Union forestière dans les premiers temps. En attendant l'arrivée de ce pionnier, les explications de Adama Fall, coordonnateur des projets SOS Sahel au Sénégal.
On est à Noto et aussi nous, notre approche, c'est qu'on soutient l'initiative locale. Dans chaque zone, on s'insère à l'activité de la zone. Vous l'avez constaté en venant. Tout autour, c'est une zone de mangue. C'est presque, je peux dire, la zone de production de la région de Thiès en mangue. Les producteurs avaient un problème pour mettre en valeur leur système de production. Parce que ici, peut-être, le producteur va venir tout de suite vous dire ce qu'il faisait avant. C'était du mil, du niébé et de l'arachide. Parce qu'il n'avait pas suffisamment la technique et les moyens de valoriser la parcelle. Après avoir travaillé avec l'IGNO et SOS Sahel, il a pu protéger, mettre en valeur 1 hectare de sa parcelle, parce qu'avant, il n'y avait que 5 pieds de manguier, parce qu'il ne pouvait pas protéger, il ne pouvait pas valoriser. Et aujourd'hui, il compte 125 pieds de manguier. Et il y a un exportateur qui fait partie des parcelles sélectionnées par un exportateur. Ce qui veut dire que cette parcelle-là a été bien valorisée et a plus de valeur que certaines d'autres parcelles. C'est un membre de l'Union, sa femme également est membre de l'Union. Mais il a pu quand même valoriser la parcelle grâce à sa femme.
Ah, c'est sa parcelle ici?
Oui.
Et quand vous dites protéger, qu'est-ce que vous avez fait?
On a pu quand même appuyer parce qu'avant... Aussi, il faut constater que tout autour, c'est clôturé. Avant, il n'y avait rien. C'est l'autre qui a pu clôturer, il a pu gagner du mur de l'autre. Ici, pareillement, c'est une maison. Mais sur les deux côtés, on avait mis une protection enfilée, parce que ça nous permet quand même de valoriser, d'accompagner plusieurs producteurs à moindre coût. Par contre, si on faisait du grillage, ça allait nous coûter trop cher et on allait toucher moins de personnes. Donc, on allait toucher moins de personnes. On avait mis des filets, c'était depuis 2014, et ces filets-là avec les termites, et également, pour éviter la divagation, maintenant les filets ont pris, il a enlevé, normalement que maintenant il y a un mur, il a enlevé cette partie, l'autre partie également, avec les termites. Mais l'appui, c'était une protection, les manguiers qui ont été fournis par l'Union, par l'encadrement de programme.
Divagation, c'est les animaux qui viennent brouter.
C'est pourquoi il ne pouvait pas valoriser son champ. Ici aussi, c'est une zone de production de plants. Les femmes...
C'est ce qu'il y a des pépinières.
Oui, c'est des pépinières. C'est des pépinières individuelles, soutenues par l'Union et les groupements. Presque dans chaque concession, vous trouvez une pépinière.
Nous, concession, vous voulez dire une maison.
Une maison. Vous trouvez une pépinière. Si on quitte tout de suite, on peut entrer dans la maison qui est à côté. Il y a une très grande pépinière gérée par les femmes. Donc, il y a une forte production de femmes. Nous avons une forte production de plants soutenus dans le cadre du projet. On a aménagé également, pour appuyer, pour accompagner l'Union, 2 pépinières d'une capacité de 50 000 plants. Une pépinière forestière pour l'aménagement de la bande de Filao et une pépinière fruitière. L'Union, pratiquement, c'est à 80% des femmes. Après avoir constaté que l'Union fonctionne très bien, que les hommes ont pu s'insérer.
En Enfin, M. Cheikh Ngouam arrive. Je rappelle qu'il est planteur et sa famille est membre de l'Union forestière. Auparavant, faute de moyens financiers et de connaissances techniques, il cultivait du niébé et de l'arachide avec un équipement rudimentaire et sa femme exploitait une maigre plantation de 5 pieds de manguier.
Au début, je l'ai fait avec du coup. Danaka bob amul rendement bi li am legi bi nga xam bok nañ ci projet bi ñon di ñu mbali ci lañ doora kom am rendement bi ñi amé ni mais bobu amuñu ko won bu jëk bobu tolli danaka dara nekk fuul tax na gis nañ jariñ ci projet bi bu baax gis nañ ci sun bop
il dit s'appeler Cheikh Ngom sur ce terrain qu'il a hérité c'est un héritage familial et tout autour ce sont ses frères qui ont avec qui il partage les parcelles. Donc, modèle d'agriculture familiale. Au départ, c'était des céréales qu'il faisait, l'arachide et le mil, qui était encore qui est une culture saisonnière. Et laquelle culture saisonnière ne lui permettait pas de joindre les deux bouts. Quand le projet est arrivé, le projet l'a encadré d'abord par rapport à la protection de son petit champ. Mais suite à cette protection, il a eu à bénéficier de l'appui du projet pour faire de l'arboriculture qui lui permet, en sus de ses revenus qu'il avait en tout cas avant, en sus aujourd'hui d'avoir une certaine fertilité avec ces arbres qu'il a, mais en plus de ça, de pouvoir aussi, au-delà de la saison des pluies, avoir des revenus additionnels.
Si j'ai bien compris ici, il y a le vent. Il y a la divagation des animaux, plus d'autres problèmes, plus le sol qui ne va pas, qui est sablonneux. Qu'est-ce que ça a changé du point de vue économique dans la vie de sa famille aujourd'hui, cet appui-là ?
Il explique qu'économiquement, sur ce petit lopin qui fait à peu près un hectare, sur ce petit lopin, les manguiers qui ont été plantés, la première année, il a pu avoir une tonne. 500. La deuxième année, il a pu avoir 2 tonnes 500. Et naturellement, comme ça évolue, l'année passée, il a pu avoir 5 tonnes de mangue sur ce lopin de terre-là. Quand la tonne de mangue est le débouché, c'est quoi ? C'est l'union qui vient mettre en rapport. Parce que la mangue, elle est sélectionnée, la mangue, elle est protégée. Et naturellement, cette mangue, pour une 80%, elle est destinée à l'exportation avec un débouché qui est assuré. Avec l'union. Effectivement, il explique qu'il est membre de cette union et cette union vient l'aider en termes de main-d'œuvre parce que lui, il n'a aucune main-d'œuvre à fournir. C'est l'union qui fournit la main-d'œuvre. C'est cette union qui vient sélectionner la mangue, qui vient traiter, qui traite aussi à ses frais. Et c'est l'union, ensemble avec tous les membres de l'union, qui fixe le prix d'achat de la mangue. Parce que cette mangue-là, naturellement, c'est l'union qui assure le débouché par rapport à l'exportation. Quand l'union arrive, l'union fixe un prix à l'avance. Et naturellement, comme au départ, la mangue elle est rare, le prix est plus cher. Et quand, parce que la saison sénégalaise, c'est une saison où la mangue, c'est la dernière saison, en tout cas pour la mangue, dans le cycle de la mangue dans le monde. Donc, naturellement, quand le volume augmente, le prix baisse forcément. Donc ça peut osciller de 250 à 150 francs.
Qu'est-ce que vous entendez par la dernière saison ?
La dernière saison ? Oui. Ah,
mais ça veut dire que c'est la mangue sénégalaise qui mûrit en dernier.
En dernier lieu. La mangue sénégalaise mûrit en dernier lieu dans le cycle par rapport à toute l'Afrique subsaharienne.
D'accord. Bon, Madame la Présidente, wow. Merci.
Merci.
Ok.
Merci.
Comment on dit au revoir au Wolof?
Wolof, Allah. Ah, nous n'y au revoir. Au revoir.
Ah, d'accord, au revoir.
Nous quittons les planteurs de Noto et nous partions pour Guétié-Séré, à 7 km de Lompoul. Ce site est situé dans la région de Louga, à moins de 10 km de l'océan entre Lompoul-sur-Mer et Kébémer. C'est un univers de sable et les dunes peuvent atteindre une hauteur de 40 à 50 mètres. Il n'y a presque pas de végétation, à tel point que la suite du voyage n'est possible que dans des camions tout-terrain qu'on appelle là-bas du Zinimog.
Je m'y allais.
Nous sommes chaleureusement accueillis par les femmes du village. Mais cela ne suffit pas à masquer les problèmes pour qui s'est observé. En effet, les activités agricoles se font uniquement dans des cuvettes. Or, l'ensablement menace les habitations et les cuvettes maraîchères. Sous la supervision de l'Union des groupements maraîchers et forestiers de l'Ombul, 10 groupements se sont engagés dans les activités de fixation des dunes. Nous retrouvons Adama Fall, qui est coordonnateur du projet SOS Sahel au Sénégal.
Au village de Séré, qui est affilié au niveau de l'Union de l'Ombul, qui est notre partenaire, notre porte d'entrée au niveau de la zone, au niveau de l'Union de l'Ombul. Le président Malick Ba, il est là à côté de moi. Son groupement compte 45 membres. Il s'active dans le renouvellement de la bande et la stabilisation des dunes. C'est une activité qu'ils sont obligés de faire dans la mesure où c'est ça qui leur garantit la sécurité. Parce que si vous regardez les deux villages là, la dune là, si on ne la fixe pas, vous avez vu, ils ont anticipé. Ils ont anticipé parce que la dune va avancer vers ce côté-là, vers le village. Parce qu'elle avait commencé là-bas. On l'a stabilisée au niveau de la cuvette. C'est la première plantation. Donc, ils sont obligés de faire de petites réalisations pour sécuriser leur zone. C'est dans ce sens-là que nous les accompagnons. C'est dans ces initiatives-là que nous les accompagnons. À ce jour, 236 hectares ont été stabilisés. Soit plus de 300 000 plants. Soit plus de 300 000 plants plantés, reboisés, seulement dans la fixation des dunes. L'opération consiste à planter au sommet de la dune dans le sens de l'avancement. Ce qui fait dans le sens de la direction du vent. Dans le sens du vent, c'est ça qui nous permet quand même d'essayer de stabiliser correctement la dune. Il nous faut également une essence très rapide. Les gens vont se poser des questions. Pourquoi l'eucalyptus? C'est parce que tout simplement, c'est une essence à croissance rapide qui nous permet quand même d'aller très vite et adapter aussi à la fixation de dunes. Et permet également aux producteurs de couper à maturité et ça donne des rejets sans replanter. D'avoir du bois sans provoquer des problèmes environnementaux. Donc, c'est aussi, il y a tout un travail, toute une démarche derrière.
Donc, des rangs d'eucalyptus pour servir de coupe-vent. Un reboisement qui a plusieurs avantages. En bloquant la progression de la dune de sable, on protège ainsi les habitations et les périmètres de culture en contrebas. Autre avantage, on se procure du bois pour les besoins des familles. Et cela va de la production des plants dans les pépinières, les plantations et l'entretien des zones reboisées. Malick Ba est le président de l'Union des groupements de producteurs de l'Ombul.
En tout cas, c'est comme ça. Nous sommes des villages excédentaires qui s'habitent dans nos cuvettes maraîchères. Mm-hmm. Donc, on est obligé de s'étendre le long de la zone des Niaï. Mm-hmm. Parce que tout le long de la zone des Niaï, c'est des villages, des hameaux, des villages qui sont habités. Et pourquoi ils sont habités? Parce que c'est là où ils mènent leurs activités de maraîchage.
En fait, on fait les villages dans les cuvettes.
Exactement, on habite avec les cuvettes maraîchères. Mmh. C'est à cause de cela. Donc, le rapprochement des lieux de travail dans les cuvettes, ce qui permet alors ces petits hameaux des villages que vous voyez. Mmh.
Donc, ici, c'est l'élevage, même si je ne vois pas les animaux, parce que je vois des peules et les peules sans les bœufs, ce n'est pas possible. Et le maraîchage.
Voilà, donc ici, c'est une zone spéciale. Dans la zone des Niaï, c'est une zone spéciale. Parce que il y a un climat favorable à toutes les activités, mm-hmm. les activités de l'élevage, la pêche mm-hmm. et le maraîchage.
La pêche, parce que la mer n'est pas loin, elle est où là?
On est à 200 mètres de la mer.
Elle est où?
Elle est là, derrière les filets à eau, vous mm-hmm. voyez la mer. Donc mm-hmm. on s'active aussi, ces trois activités mm-hmm. sont des activités phares aujourd'hui pour le développement d'un pays. Et je pense que là où nous sommes, cette zone des Niaï, 85% de la production maraîchère provient de la zone des Niaï du Sénégal.
Le problème, c'est les dunes.
C'est les dunes. L'avancée des dunes pose problème. Mm-hmm. C'est à cause de cela notre partenariat avec SOS Sahel pour stabiliser ces dunes mm-hmm. qui alors nous envahissent les cuvettes maraîchères et nos maisons.
Vous avez expliqué pourquoi les dunes, elles bougent?
Oh, parce qu'il y a le vent. Mm-hmm. Il y a assez de vent fort qui nous provient du nord-est. Alors, tout le temps, qui fait pousser les dunes là vers les cuvettes maraîchères et vers les habitations.
Monsieur le Président, je veux comprendre. C'est-à-dire qu'il y a ce vent-là qui vient de la mer, un vent fort, et vous avez eu la bonne idée de couper toute la végétation. Donc, il faut replanter.
Au début, il n'y avait pas une bonne gestion environnementale.
C'est-à-dire qu'on a coupé.
C'est pourquoi on a coupé. Et ce qu'on a coupé nous servait encore aussi de pouvoir faire des puits. Mm-hmm. Alors, et pour avoir l'eau, donc ils ont obligé aussi de déstabiliser encore pour faire des palissades, mm-hmm. pour alors clôturer alors nos champs. Mm-hmm. Donc, il n'y avait pas la conscientisation de ce phénomène qui nous est venu après.
Donc après, on est venu, SOS Sahel est venu vous dire, s'il y a le problème, c'est le vent.
C'est le vent. Et là, ils ont commencé à nous appuyer. Vous voyez, alors, devant nous, alors, l'importance, et alors, vous allez visiter comment on a stabilisé beaucoup de cuvettes maraîchères qui a permis alors ces populations de les récupérer et commencer à les exploiter.
Donc, l'idée, c'est de planter des eucalyptus.
Oui, l'eucalyptus. Pourquoi l'eucalyptus? Parce qu'il y a une essence très rapide, à croissance rapide, donc qui régénère. Donc,
régénérer, ça veut dire que même si vous coupez, il repousse.
Il repousse encore. Donc, c'est ça. Donc, c'est pourquoi on a préféré l'eucalyptus.
Donc, en même temps que vous pouvez satisfaire votre besoin en bois, en même temps, le couvert végétal, il reste.
Il reste, c'est ça. C'est un appui très important pour la population. Et depuis 2007, alors, on est avec SOE Sahel, avec notre organisation et les groupements membres.
Et où vous trouvez les plants d'eucalyptus?
Non, nous les produisons nous-mêmes.
Ah, vous avez une pépinière?
Oui, des pépinières, parce que l'appui de SOE Sahel, c'est de faire des pépinières. Mm-hmm. D'abord, avant de replanter, on t'appuie sur les pépinières, mm-hmm. sur les graines, sur les semences et tout maintenant. Le rempotage et la mise en place des pépinières, c'est les groupements qui le font parce qu'ils ont expérimenté, ils ont eu des formations à travers SOE Sahel.
Mais j'ai vu que même le village et même les habitations étaient menacées.
Tout est menacé. La vie est menacée par les dunes. Ça, c'est quelque chose de réel.
C'est pour ça que vous avez planté ces haies d'eucalyptus là.
Exactement. C'est les haies d'eucalyptus qui nous permettent alors d'habiter bien et alors mettre encore des maisons en dur. Mm-hmm. Au début, on ne pouvait pas le faire.
Pourquoi?
Parce que les dunes nous envahissaient, donc on est obligé de mettre des cases et les déplacer d'un moment à l'autre.
Ah, donc vous avez des cases démontables. Si la dune vient, vous vous déplacez.
Vous déplacez, donc c'est ça.
Oui, la case, on peut la déplacer, mais un jardin, si vous avez un plan de carottes dessous...
Non, ça, on ne peut pas la déplacer, donc on est obligé encore d'aller couper encore autre part pour faire alors une cuvette. Donc ce qui a amené ce que vous voyez, alors ce qu'on a coupé, tous les arbres là, alors cette déforestation qui est là devant nous.
Donc maintenant ça va?
Actuellement ça va, il y a la conscientisation.
Ça veut dire que maintenant vous le faites tout seul?
Nous le faisons tout seul et nous y arrivons aussi.
Je vous remercie.
Merci monsieur.
Nous étions dans le village de Moto dans la région de Thiès et dans le village de Guété-Séré dans la région de Louga au Sénégal avec les techniciens terrain et les groupements maraîchers et forestiers qui luttent pour la valorisation de leur production et contre la production des dunes qui menacent d'ensablement les cuvettes maraîchères. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Mouchinski, au micro Sayouba Traoré. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site www.rfi.fr. Pour ceux qui veulent nous écrire, le coqchante@rfi.fr. Et vous pouvez également consulter notre page Facebook, le coqchante. Avant de se quitter, ce petit rappel, vous voulez écouter Radio France Internationale sur votre téléphone mobile, c'est très facile. Il vous suffit de télécharger l'application RFI Pure Radio. Vous faites votre choix parmi les 14 langues et vous vous laissez guider.
Merci. Merci, mesdames.